du management au menu de la deuxième partie de la Grande Table dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, il est midi et demi sur France Culture. C'est l'heure du journal avec vous, Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Londres donne suite au projet de construction de deux réacteurs de type EPR à Hinkley Point. Michel Sapin parle de succès indéniable pour l'industrie française, une contribution importante au soutien de l'emploi en France. Pour le PDG d'EDF, le projet marque la relance du nucléaire en Europe. Dossier suivi par Cécile de Carvaz-Doué. Le mariage annoncé hier entre le chimiste Bayer et le fabricant américain de pesticides et de semences OGM Monsanto est critiqué aujourd'hui à la fois par les défenseurs de l'environnement et les agriculteurs, explication d'Anne-Laure Chouin. Les syndicats organisent dans toute la France une dernière journée de grève et de manifestation pour réclamer l'abrogation de la loi travail. Analyse d'Annabelle Grelier. L'ouverture aujourd'hui à Bastia du procès de la Rixe survenue le 13 août dernier sur une plage de Cisco sera suivie pour nous par Marie-Pierre Véraud. On parlera du Brésil où l'ancien président Lula est accusé par le parquet d'avoir été le chef suprême du réseau de malversation au sein du groupe public pétrolier Petrobras. Commentaire de Nadine Epstein. Et puis comment la presse peut-elle encore toucher le jeune public? 8 médias français, parmi lesquels Le Monde, L'Équipe et Paris Match, se lancent sur la rubrique Discover de Snapchat. Explication avec Éric Chavroux, l'invité de la séquence interview Pierre Jacquemin, ancien conseiller de Myriam El Khomri, auteur d'un livre intitulé « Ils ont tué la gauche » publié chez Fayard. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
Une critique de la condition managériale avec le manager philosophe Ghislain Deslandes. Au fond, ce sera une autre réflexion sur le travail que nous ouvrirons tout à l'heure à 12h55.
La première ministre britannique Theresa May a donc appelé hier soir François Hollande pour lui annoncer, pour l'en informer, Londres va donner suite au projet de construction de deux réacteurs de type EPR à Hinkley Point. C'est un projet, on s'en souvient, controversé. 18 milliards de livres sont en jeu, portés par le français EDF, avec le soutien d'une compagnie chinoise. Les Britanniques ont toutefois assorti leur accord d'une série de mesures pour, disent-ils, améliorer la sécurité. Cécile de Carvaz-Doué, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'il y a précisément dans cet accord?
Si le communiqué de Londres prévient qu'il y a effectivement de nouvelles conditions par rapport au projet adopté par EDF le 28 juillet dernier, l'accord de principe du gouvernement de Theresa May ne change finalement pas grand-chose aux grandes lignes de ce projet qui doit donc fournir 7% des besoins britanniques en électricité via la création de deux réacteurs EPR sur le site d'Hinkley Point, c'est au sud-ouest de l'Angleterre. Les Anglais, disent-ils, veulent obtenir des garanties de sécurité de financement de ce projet. En clair, impossible pour EDF de vendre le site. EDF doit rester actionnaire principal du projet pendant toute la durée de la construction, même s'il y a des retards. Et surtout, après la construction, l'entreprise française ne pourra pas vendre le site ni l'exploitation à quelqu'un d'autre sans l'accord préalable du gouvernement. Il y a également dans ce communiqué des précisions sur le prix de l'électricité décidé par EDF. Mais on voit surtout derrière toutes ces mesures ou toutes ces conditions dans ce communiqué officiel, que ce qui risque de coincer dans ce projet nucléaire pharaonique d'Hinkley Point, c'est la participation des Chinois. Officiellement, ce projet de 21 milliards d'euros est pris en charge à un tiers par les Chinois de CGN, mais surtout, il est prévu qu'un des quatre réacteurs soit directement construit par les Chinois avec leur propre technologie, ce qui permettrait à la Chine d'avoir une très belle vitrine nucléaire en Europe. Mais tout cela fait tiquer les Britanniques. Rien ne dit donc si ce projet chinois ne voit pas le jour, d'ailleurs, que la Chine reste dans le financement d'Hinkley Point.
Cécile de Carvaz-Doué, il faut dire quand même que tout le monde se réjouit, en tout cas le gouvernement français s'est réjoui, ça crédibilise la filière française, la filière nucléaire française qui est en pleine refonte, affirme le secrétaire d'État à l'industrie Christophe Sirugue. C'est un succès indéniable pour l'industrie française, dit Michel Sapin de son côté. Et puis il y a le PDG d'EDF aussi qui dit que ce projet marque la relance du nucléaire pour toute l'Europe. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle?
Mais ça dépend d'où on se place, hein. Évidemment, côté syndicat, c'est pas du tout ce type de discours. Ce qu'ils répètent, eux, c'est que le projet est un bon projet, oui, un bon projet pour la filière, mais c'est pas du tout le moment. Il faudrait attendre 2 ou 3 ans. Le problème, disent les syndicats, c'est que la filière n'est pas prête. Aucun EPR ne fonctionne aujourd'hui au monde. Cette technologie n'a pas du tout fait ses preuves. Attendons que la Chine ait terminé la construction pour savoir si au moins ça fonctionne. Tous les chantiers aujourd'hui, EPR, ont accumulé des retards énormes et surtout des surcoûts. Trop dangereux, irresponsable, répète-t-il, de lancer Hinkley Point aujourd'hui, lorsque l'on sait qu'EDF est en plus déjà endettée à hauteur de 37 milliards d'euros.
Cécile de Carvaz-Douai, merci.
Midi 35 sur France Culture. Le mariage annoncé hier entre le chimiste Bayer et le fabricant américain de pesticides et de semences OGM est fustigé ce matin à la fois par les défenseurs de l'environnement et les agriculteurs.
Oui, en rachetant Monsanto, Bayer pourrait s'assurer plus d'un quart du marché mondial des semences et des pesticides. À terme, le groupe va devenir un fournisseur unique donc de semences, de produits agrochimiques et de services d'aide à la culture. Et là encore, on peut peut-être s'interroger à leur choix. Est-ce que c'est vraiment une si bonne nouvelle que ça ?
Eh bien, l'action de Bayer a grimpé en bourse ce matin, celle de Monsanto aussi, quoique moins qu'attendu. Pour les dirigeants des deux groupes, c'est une bonne nouvelle, oui, même si rien n'est encore fait, car plusieurs autorités de la concurrence et groupes antitrust doivent se pencher sur la question avant de donner leur accord. Bayer a même promis 2 milliards d'euros de compensation à Monsanto dans le cas où le projet capoterait. Ce qui est sûr, c'est que Monsanto se vend là à un très très bon prix, surestimé, estiment même les analystes, et l'allemand Bayer s'assure une place dominante. Vous l'avez dit, sur le secteur, l'entreprise craignait jusque-là d'être elle-même la proie de géants chimiques plus gros qu'elle, grossir pour ne pas mourir. C'est donc la stratégie à voir si elle sera validée. Si elle l'est, cela aura plusieurs conséquences. D'abord, une concurrence moindre sur le marché des semences et des pesticides, et moins il y a d'acteurs sur un marché, plus les prix augmentent. C'est ce que craignent en premier lieu les agriculteurs. D'autant que le nouveau groupe gérera presque toute la chaîne du végétal, de la semence à la récolte, puisque Monsanto est de plus en plus actif, en effet, dans ce qu'on appelle la ferme digitale, l'analyse des données agricoles, etc. L'autre conséquence est encore incertaine. Ce mariage s'est aussi noué, en effet, pour des raisons d'image. Monsanto, qui fabrique le Roundup et qui commercialise des OGM, fait figure d'épouvantail dans l'opinion publique. Le groupe espère bien profiter de l'image un peu moins désastreuse de son racheteur. Mais est-ce que l'inventeur de l'aspirine va supplanter dans les esprits celui du glyphosate ? Rien n'est moins sûr. Bayer pourrait bien devenir à son tour le symbole d'une agriculture qui n'a plus rien d'agricole, et cela inquiète ses employés aussi bien que ses actionnaires.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Le débat autour d'Alstom en France. Jean-Luc Mélenchon estime dans une tribune publiée par Le Monde qu'une nationalisation d'Alstom Transport est indispensable car, je cite, son pillage et son dépeçage doivent être cessés d'urgence. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, c'est lui aussi dit favorable à une renationalisation, toutefois provisoire, d'Alstom et une prise de participation de l'État plus importante pour sauver l'entreprise.
La contestation contre la loi travail, Antoine Mercier, tente de survivre au vote du projet. Les syndicats organisent dans toute la France une dernière journée de grève et manifestation pour en réclamer l'abrogation.
Oui, il y a des appels donc à la grève qui ont été lancés dans la fonction publique, à la Poste, chez Air France, France Télévisions ou encore les intermittents du spectacle. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Que peuvent encore espérer les grévistes et les manifestants ?
Sur la loi travail en elle-même, rien. La loi a été promulguée, les premiers décrets ont été publiés, les autres le seront en octobre. Sur le temps de travail, le référendum en entreprise, les accords offensifs, bref, toutes les nouvelles dispositions contre lesquelles ils se sont battus farouchement tout le printemps. Donc certes, il reste de l'amertume hein, parmi les opposants à cette loi, mais l'heure est au combat dans les entreprises. Il faut maintenir la pression, disent-ils. L'objectif, selon Force Ouvrière, la CGT, la FSU, Solidaires, est que la loi travail, qui est entrée par la petite porte, sortent par la fenêtre. Alors, comment vont-ils s'y prendre ? Eh bien, les syndicats vont se battre sur le terrain juridique. Ils travaillent sur des recours possibles, notamment à travers des questions prioritaires de constitutionnalité, les QPC. Mais puisque ces nouvelles dispositions doivent passer par des négociations et des accords, eh bien, les délégués du personnel, des CCE, discuteront, résisteront sur des sujets aussi sensibles que le temps de travail ou encore le travail du dimanche. Pour un licenciement, par exemple, sera observé de très près par les délégués syndicaux les mesures qu'ils estiment régressives, comme le fameux périmètre de licenciement, sur le temps de travail, les accords offensifs qui permettent aux entreprises d'ajuster leur organisation pour préserver l'emploi, sera également scruté, vérifié et s'il le faut contesté puisqu'il implique des pertes de chiffre d'affaires sur un ou plusieurs trimestres. Bref, les syndicats comptent maintenant se battre pied à pied. La CGT par exemple prévoit de mettre en place des observatoires pour aider ces syndicats à proposer dans les négociations d'autres alternatives que celles prévues par la loi. La CGT, on comprend, ne veut pas se laisser enfermer dans sa case de syndicat de combat et laisser la CFDT dans celle du syndicat réformiste, car l'enjeu des prochains mois est bien là. Savoir qui des deux syndicats récoltera les fruits de ce printemps social agité, celui qui accompagne le gouvernement ou celui qui l'affronte. Premier test, novembre prochain avec les élections professionnelles dans les TPE.
Merci Annabelle Grolier et nous saluons l'invité de la séquence interview, Pierre Jacquemin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien conseiller de Myriam El Khomri. Vous avez écrit un livre intitulé « Ils ont tué la gauche chez Fayard ». Vous avez assisté donc de l'intérieur à la manière dont ce projet a finalement évolué. Vous montrez comment notamment Madame El Khomri s'est inclinée, a dû s'incliner face à Manuel Valls. On va en reparler. Aujourd'hui, contester la loi de travail, est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde puisque la gauche a été tuée?
Non, je ne le crois pas. Je crois d'ailleurs que précisément parce que le débat parlementaire a été sacrifié par l'usage du 49-3, je crois qu'il y a la nécessité aujourd'hui d'une reprise en main par les citoyens d'un combat politique qui est celui mené depuis plusieurs mois et depuis plusieurs mobilisations de citoyens dans la rue. Il est nécessaire aujourd'hui de poursuivre ce combat et de dire pourquoi le projet de société, puisque c'est plus qu'un projet de loi travail, je crois que c'est vraiment un profond changement de société et de vision de la société, des rapports de force dans l'entreprise, des rapports de force dans la société, qu'il faut combattre et que donc cette manifestation est aujourd'hui importante. Il y en a eu beaucoup ce matin dans toute la France et il est important aujourd'hui que les salariés ne se sentent pas isolés et se sentent rassemblés autour d'un combat commun. Mais il ne sera pas suffisant ce combat. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi porter une alternative, porter la vision que la gauche doit proposer.
Il y aura des élections pour ça.
Il y aura des élections pour ça.
Pierre Jacquemin, merci beaucoup. On vous retrouve donc dans la séquence interview. L'ouverture aujourd'hui à Bastia du procès de la rixe qui est survenue le 13 août dernier sur une plage de Cisco entre des familles marocaines de Corse et des villageois. Malgré les tensions qu'avait suscité ce fait divers dans l'île, il y a eu une demande de dépaysement qui a été rejetée ce matin. En refusant donc l'hypothèse d'un procès loin de Bastia, le procureur général rejette l'argumentaire des avocats qui invoquaient la sérénité des débats, la sûreté des prévenus et l'immixtion politique dans cette affaire. On essaiera de retrouver Marie-Pierre Véraud dans le cours de cette édition qui se trouve, et voilà, donc Marie-Pierre Véraud est déjà revenue, donc on va pouvoir lui demander son avis sur ce procès qui va s'ouvrir. Marie-Pierre Véraud, bonjour. Qu'est-ce que l'on juge précisément aujourd'hui à Bastia? Bon, apparemment, c'était une fausse promesse où la ligne a à nouveau été interrompue. Voilà, donc Marie-Pierre Véraud, si vous êtes là, vous nous rappelez, on essaye de vous prendre dans le journal pour parler de ce procès. Au Brésil, l'ancien président Lula da Silva, son épouse et 6 autres personnes ont été inculpées pour corruption et blanchiment dans le cadre de l'enquête sur le scandale des rétrocommissions au sein de la compagnie pétrolière publique Petrobras. Le parquet accuse Lula d'avoir été le chef suprême de ce réseau de malversations au sein du groupe pétrolier. Lula qui doit donner tout à l'heure une conférence de presse à Sao Paulo. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il faut penser de ces terribles accusations?
Et le procureur ne mâche pas ses mots pour accuser Lula. Il est le chef de cet orchestre criminel. Le montage Petrobras avait pour but de maintenir le parti des travailleurs au pouvoir par des moyens criminels, fermer les guillemets et le magistrat d'accuser l'ex-président et son épouse d'avoir reçu des pots de vin, de l'argent et un luxueux appartement offert par le groupe de construction OAS, conglomérat brésilien dont plusieurs responsables ont été condamnés pour corruption, blanchiment d'argent et appartenance à organisation criminelle dans le scandale Petrobras. Lula, qui nie être propriétaire de cet logement, s'exprimera, vous l'avez dit dans la journée, mais d'ores et déjà son avocat a parlé d'accusations de nature politique visant à éliminer l'ex-chef d'État de la course présidentielle de 2018. C'est l'adversaire juré de l'ancien président, le redouté juge Sergio Moro, chargé du dossier sur les enquêtes de l'opération Lavage Rapide, qui se prononcera sur sa mise en examen. Ce juge qui avait illégalement procédé à des écoutes téléphoniques de la défense de l'ancien chef de l'État et divulgué le contenu de conversations téléphoniques entre Lula et Dilma Rousseff. L'énorme scandale de corruption autour du groupe public pétrolier Petrobras aurait coûté plus de 2 milliards de dollars en 10 ans à l'entreprise et une bonne partie de l'élite politique et industrielle du Brésil est impliquée. On se croirait dans une telenovela brésilienne, conspiration, mensonge, trahison, corruption, pouvoir. Aujourd'hui, l'ex-président Lula, hier l'ex-président de la Chambre des députés, fer de lance de la procédure contre la présidence brésilienne qui a été mise à l'écart et précédemment la destitution de Dilma Rousseff. Suivre.
Merci beaucoup Nadine Epstein.
La suite du journal d'Antoine Mercier, il est presque midi 45 sur France Culture. Comment la presse peut-elle encore toucher le jeune public? 8 médias français parmi lesquels Le Monde, L'Équipe et Paris Match se lancent sur la rubrique Discover de Snapchat.
Oui, c'est une application de partage de photos et de vidéos, comme on sait, qui compte 8 millions d'utilisateurs en France. Les moyens d'information traditionnels luttent pour préserver leur audience directe face au réseau. Éric Chavreau.
Avec une cible, Antoine, les millennials des 15-24 ans, accros aux petites vidéos et aux réseaux sociaux, qui regardent la télévision en replay. Ces natifs numériques, si vous préférez, passent en moyenne près d'une journée par semaine sur leur smartphone, avant tout sur Facebook. Une récente étude de Médiamétrie a ainsi montré comment les réseaux sociaux deviennent une priorité des Français. Facebook talonne Google en tête, suivi dans le top 5 de Twitter, et les sites d'information arrivent bien plus tard. L'Équipe en 15e position, Le Monde peu après, ou Le Figaro en 29e position. Autre chiffre saisissant, le centre de recherche américain Pew Research a révélé que les utilisateurs de Facebook intéressés par l'actualité ont progressé entre 2013 et 2015 de 4% à 63%. Avec une nuance d'importance toutefois, et qui explique aussi le succès de l'onglet Discover auprès des médias, les adeptes de Facebook ont aujourd'hui en moyenne 41 ans, quand ceux de Snapchat, toujours plus nombreux, ont seulement 18 ans.
Alors on comprend effectivement pourquoi, Eric, les éditeurs se pressent sur ces réseaux sociaux.
Oui, d'autant que ces réseaux, friands de partenariats avec de très grands médias pour leur image, facilitent toujours plus la découverte de ces contenus. Facebook vient de le démontrer avec ses articles instantanés. Mais il y a des conditions, voire des contraintes, et certains éditeurs français ont même abandonné face aux exigences de Snapchat pour Discover, car pour s'assurer cette visibilité à tout moment sur l'application, les premiers choisis ont dû promettre une équipe dédiée à plein temps d'au moins 4 personnes aux talents de graphiste et avec minimum 10 publications par jour. Outre la qualité des contenus qui doit s'adapter au code du réseau social, certains s'interrogent donc sur l'avenir du pluralisme de l'information. Quel pouvoir éditorial auront aussi les algorithmes de ces réseaux sociaux que les médias ne maîtrisent pas directement, sans parler du devenir des données privées de leurs nouveaux lecteurs, peut-être avant tout destinées à des publicités ciblées.
Éric Chavroux, merci beaucoup. Je vous rappelle que la particularité de cette application, c'est l'existence d'une limite de temps de visualisation du média envoyé à ses destinataires. Chaque photographie ou vidéo ne peut être visible par le destinataire pendant une période de temps de 1 à 10 secondes. Mais nous, à la radio, on fait beaucoup mieux parce qu'immédiatement après avoir parlé, eh bien, tout cela s'efface immédiatement. La séquence interview, on reçoit Pierre Jacquemin, qui était un proche conseiller de la ministre du Travail, qui a choisi de claquer la porte mi-février pour marquer son désaccord avec le projet de loi El Khomri, dont on a parlé dans cette édition, et qui publie donc un livre sur cette expérience intitulé « Ils ont tué la gauche ». Pierre Jacquemin, puisque vous avez vécu tout cela donc de l'intérieur, ce passage finalement d'une gauche avec des idéaux à une gauche sans beaucoup d'idéaux, dites-nous ce qui pousse de l'intérieur, la gauche, ainsi par exemple la ministre Myriam El Khomri, à devoir s'adapter, à devoir abandonner un certain nombre de priorités qui étaient pourtant des choses qui étaient ancrées dans sa volonté de faire de la politique.
Oui, je crois que vous avez parlé d'idéaux concernant ce gouvernement. Je suis aujourd'hui absolument convaincu, ou en tout cas persuadé, que ce gouvernement, en tout cas ceux qui la composent, et à la tête le chef de l'État et le Premier ministre, ont justement cessé d'avoir des idéaux. Ils ont même cessé de faire de la politique, je le crois.
C'est ça qui m'intéresse. Comment ça se passe? À quel moment on cesse? Pourquoi on cesse?
Je parle de posture dans mon livre. Je crois qu'effectivement, on sait tous quelle a été la posture et l'imposture de François Hollande. La posture, ça a été de dire « mon ennemi, c'est la finance », et l'imposteur, ça a été effectivement le candidat à l'élection présidentielle de 2012. Se faire élire sur un programme de gauche, c'est ce que François Hollande a essayé de faire, et il a mener des politiques de droite. Et la loi travail, aujourd'hui, la trahison de cette loi travail, c'est qu'elle n'était pas au programme de ce gouvernement. Myriam El Khomri, quand elle accepte la responsabilité du ministère du Travail, alors qu'elle la refuse une première fois, le président de la République la convainc en lui disant qu'elle allait porter la réforme sociale de ce quinquennat, la grande réforme sociale de ce quinquennat. Il a laissé la ministre mener ses concertations avec
la star à gauche.
Oui, et c'était l'enjeu, et je pense que c'était stratégiquement malin de l'imaginer comme ça, puisque l'élection présidentielle arrivant à grands pas, il fallait aussi pouvoir rassembler, ou en tout cas parler à la gauche. Or, dans ce gouvernement, seul s'exprime Emmanuel Macron.
Alors,
Emmanuel
Valls. Est-ce qu'elle a été piégée, ou alors est-ce que tout a basculé à un moment donné?
Je crois qu'on l'a utilisée, oui, aujourd'hui, parce que elle incarnait une espèce de discours de gauche, ou elle a un passé, elle a été quand même ministre de la ville, elle a mené des combats dans les quartiers populaires, notamment sur la question de l'emploi. Elle avait une crédibilité et elle pouvait faire sa place et imposer le ton qui était le sien dans le ministère du Travail. Or, aujourd'hui, il est clair que le Premier ministre, les intentions du Premier ministre et du président de la République n'étaient pas les bonnes. Ils se sont servis d'elle pour porter une réforme de droite, tout en sachant qu'elle ne lutterait pas contre les directives et les orientations politiques qui étaient celles de Manuel Valls.
Ludovic Piatelu.
Elle était la vitrine, en fait, Antoine, Myriam El Khomri, c'est ça que nous dit Pierre Jacquemin. Et puis derrière, il y avait la technostructure. Ce bouquin, Ils ont tué la gauche chez Fayard, est une critique très lourde de cette technostructure avec laquelle vous avez travaillé. Vous avez été conseiller communication stratégie. Est-ce que vous aussi, vous êtes un technocrate, mais alors un plus clairvoyant?
Non, je crois pas que je sois un produit de la technocratie. J'ai une histoire personnelle. Je viens d'un milieu populaire, une famille communiste. Je n'avais pas l'ambition, ou j'avais peut-être une forme d'autocensure à ne pas imaginer que j'allais pouvoir faire les grandes écoles. Et d'ailleurs, j'avais pas spécialement de fascination pour ça. Par contre, je me suis intéressé à la sociologie. J'ai nourri une combativité, une conscience de ce qu'était le monde. Et donc, je suis devenu un militant politique, associatif. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris mes fonctions dans les cabinets politiques. C'était pour accompagner la décision politique, pour accompagner et faire des propositions politiques.
Mais un peu le mouton noir dans un cabinet.
Tout ce que je dénonce dans ce livre, c'est justement cette dépolitisation des cabinets ministériels. Et aujourd'hui, les cabinets ministériels sont remplis de technocrates. C'est pas un méchant mot quand je dis ça, c'est que ces technocrates ne sont pas là pour penser une alternative. Ils sont là pour penser les contraintes de dette, les contraintes de l'Europe, les contraintes
de déficit. C'est justement ça, peut-être, la gauche du gouvernement.
Et aujourd'hui, ils ne font de la politique que de manière mathématique et logique, en fait.
Aujourd'hui, François Hollande, dans Le Monde, aujourd'hui, dit la gauche du gouvernement, son destin, ça a toujours été d'être accusé de trahison. Et il ne faut pas baisser les yeux face à ça, parce qu'il y a une autre gauche qui s'est écartée de la gouvernance du monde. Donc on est pris devant ce problème éternel. Ou bien on gouverne et on doit forcément trahir en partie ce qu'on a prévu de faire. Ou bien alors on ne peut pas gouverner.
Je ne crois pas. Je crois tout à fait en la capacité du politique de changer la donne et de changer profondément la société française aujourd'hui et à travers tous les enjeux qui nous préoccupent tous, la question sociale, la question écologique. Je crois profondément en cette capacité du politique à intervenir. Regardez l'époque du Front Populaire, j'en monte très très loin, mais c'était pas une alliance de circonstances, c'était une alliance de la gauche sur des valeurs, sur des propositions fortes qui ont marqué l'histoire de la gauche. Aujourd'hui, il y a effectivement dans les expériences de la gauche rassemblée au gouvernement, ça a été source de désillusions. Et d'ailleurs, c'est les périodes où la montée du Front National a été la plus importante. Après Mitterrand, ça a été après Jospin, et aujourd'hui, on s'attend à peu près à la même chose. Et donc, cette désillusion, aujourd'hui, nourrit l'incapacité, ou en tout cas l'hostilité des citoyens vis-à-vis des politiques. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'en ne faisant plus de politique, ou en tout cas en abandonnant les politiques sociales, écologiques, que la gauche devrait être en capacité de porter au gouvernement, on perd une partie de l'électorat, et surtout, on décrédibilise la politique.
Ce que vous dénoncez aussi, Pierre Jacquemin, qui décrédibilise la politique, ce sont les mots, le langage. Et cette robotisation, vous appelez ça, la robotisation du discours politique, vous étiez la plume et engagé pour ça, pour écrire des discours, pour écrire ces éléments de langage dans les interviews, dans les médias. Vous parlez même d'un comique de répétition. Vous avez participé à ça?
Oui, c'est très juste. Après, j'explique effectivement quelle a été ma mission auprès de Myriam El Khomri, mais plus qu'une question d'écriture d'éléments de langage. Ma mission et la mission des collaborateurs politiques dans un cabinet ministériel, c'est précisément de donner des orientations. Après, ma tâche, elle était auprès d'une jeune ministre, de lui donner des éléments de langage pour s'exprimer dans des meetings, dans des émissions.
Vous essayez de différencier.
C'est ce que j'ai essayé de faire. Après, je me suis aussi très vite aperçu que je n'avais pas la main sur le discours de Myriam El Khomri quand j'écrivais des discours et qu'ils étaient repris et de manière totalement différente par Matignon. Bon, voilà, à partir du moment où j'ai compris que je n'avais plus de place dans ce cabinet, que ma fonction était totalement inutile, c'est là où j'ai rompu avec la ministre, au-delà de la question de l'orientation politique de
c'est ce que vous racontez d'une interview aux Échos qui a été la première donnée pour cette loi travail, qui a été entièrement réécrite à Matignon.
Par Matignon, contre l'avis du président de la République.
C'est ce que vous indiquez aussi sur le maigre coup de pouce fait au SMIC.
Au SMIC, absolument.
Vous dites vous informez la ministre.
Oui, c'est un moment assez surréaliste que j'ai vécu dans ces 6 mois de cabinet ministériel où j'arrive dans mon métro, j'étais en train de lire le journal et je lis la ministre du Travail annonce qu'il n'y aura pas de revalorisation du SMIC.
Vous arrivez rue
Grenelle. J'arrive au ministère, je vais voir la ministre, je lui dis Myriam, t'as décidé que tu ne remontes pas les SMIC, le SMIC aujourd'hui. Et elle me dit, je ne suis pas du tout au courant. Et donc elle découvre, comme moi dans la presse, qu'elle a pris une décision qui avait été prise sans concertation avec les partenaires sociaux.
Elle vous en veut d'avoir déballé tout ça dans un livre?
Faut lui poser la question, mais écoutez, moi je me sens totalement libre aujourd'hui de combattre.
Que vous l'avez pas eu au bout du fil.
Non, je n'ai pas.
Mais pas de Brutus, pas ils ont tué le père, parce qu'on a beaucoup parlé de ça ces semaines avec Macron.
La question de la loyauté
Hollande.
En politique, moi je suis désolé, j'ai pas à être loyal vis-à-vis de Myriam El Khomri. Eux, ils ont à être loyaux vis-à-vis d'un peuple qui les a élus. Ils ont trahi ce peuple. C'est pas moi qui ai trahi. Demandez aux électeurs, aux 18 millions d'électeurs, qui a trahi qui.
Ouais, sauf qu'il y a pas de trahison, parce que j'entends François Hollande dire encore ce matin dans Le Monde.
Alors, social-libéralisme. C'est dans la revue. Ce sont des extraits parus dans le Monde cet après-midi, dans le débat.
Le social-libéralisme, donc il se revendique social-libéralisme, il dit c'est le libéralisme sans brutalité. C'est pas vrai, ça? En un mot, vraiment, parce que c'est terminé.
Non, je pense que c'est totalement faux. Aujourd'hui, il mène des politiques totalement libérales avec toute la brutalité.
Oui, mais c'est ce qu'il dit. Il dit c'est le libéralisme sans brutalité.
Bah si, la brutalité, elle est aujourd'hui, elle s'exprime dans la rue. C'est la brutalité de la précarité aujourd'hui qui s'impose dans la société. C'est la brutalité de la question de la misère, de la pauvreté, de la malnutrition que François Hollande ne règle pas. Cette brutalité, elle s'exprime précisément dans ces politiques libérales qui précarisent.
Pierre Jacquemin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ils ont tué la gauche, donc c'est publié chez Fayard. Pluie au nord, orage au sud, température en baisse, 19 à 23 degrés en général, mais encore jusqu'à 27 degrés près des frontières du nord. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.